Nous vivons dans une période très intéressante. Et c'est très vrai, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, beaucoup de choses se produisent actuellement. Nous vivons à une époque très intéressante en ce qui concerne l'histoire et la prophétie biblique. C'est intéressant aussi de constater qu'au moment où les prophéties se réalisent sous nos yeux, en même temps, dans nos vies personnelles, nous vivons à un rythme frénétique, très agité. Pensons-y un peu. Certains termes que nous utilisons pour décrire nos journées ou nos semaines, une course folle, je n'ai plus d'énergie, je suis dépassé par le nombre d'activités que j'ai à faire. Nous avons un rythme très rapide de vie. Nous vivons sur la voie rapide, pour ainsi dire. Et on essaie de faire plusieurs choses en même temps. En auto, les gens ne font pas simplement conduire leur voiture. Ils parlent au téléphone cellulaire, ils écoutent la radio en même temps et ils surveillent le GPS. Et si vous êtes une mère de famille, en même temps, vous réglez certains problèmes entre les enfants, peut-être. On essaie de faire toutes ces choses-là en même temps. Je me rappelle aussi récemment, assis à mon bureau, je suis en train de travailler à l'ordinateur, le téléphone sonne et en même temps, on frappe à la porte. Alors on se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant comme priorité? Je me rappelle d'une dame une fois qui descendait du deuxième étage au premier étage avec un téléphone dans les mains. Son cellulaire a sonné et elle a répondu à l'autre téléphone plutôt. Ce téléphone-là n'était pas branché. La vie va tellement vite. Je pense que nous comprenons cela. Les gens ne regardent pas simplement une émission de télévision. Ils regardent peut-être deux ou trois matchs de football en même temps. Et durant la pause commerciale, ils vérifient le canal météo. On fait toutes ces choses-là en même temps. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les gens ne vont pas simplement marcher. Ils vont marcher avec un radio branché dans leurs oreilles et en même temps un téléphone cellulaire attaché à leur ceinture pour être prêt à tout ce qui peut arriver. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas le monde de Dieu. La Bible dit que c'est le monde de Satan. Et il nous amène à courir en cercle tout le monde. Et il tente de garder nos esprits tellement occupés qu'on ne prend pas vraiment le temps de réfléchir. On se rend compte, par exemple, qu'au moment d'un mariage ou d'une cérémonie funéraire, on a plus le temps et on prend le temps un peu de parler avec les gens des questions les plus importantes dans la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de l'existence humaine? Où est-ce que je me dirige? Un an ou deux ans d'ici, où vais-je être? Est-ce que les priorités que j'ai actuellement vont faire une grande différence dans 5 ans? Voilà des choses auxquelles il nous faut réfléchir. Nous devons soupeser ces choses-là. Ce sont des choses qui importent. Il y a 25 à 30 ans, M. Armstrong, un homme qui a été l'instrument de Dieu pour bâtir l'ère moderne de l'Église de Dieu, nous a dit souvent avant de mourir des choses importantes concernant un thème. Il nous a dit, il nous faut simplifier notre vie. Voilà un homme qui était né avant que les frères Wright travaillent sur leur premier avion, avant que la radio ne devienne quelque chose d'important, avant l'existence de la télévision et avant l'existence de l'Internet. Et vous savez, il y avait un monde qui existait avant Internet. Avant les fusées spatiales, voilà un homme qui a été témoin de l'arrivée de toutes ces choses-là et leurs conséquences. Et il a dit plusieurs fois qu'il nous faut simplifier notre vie. Et il ne parlait pas simplement du fait d'éliminer certaines choses dans nos vies. Il parlait du fait de nous concentrer sur les choses importantes, sur les questions importantes de la vie. Qu'est-ce qui importe vraiment dans nos vies? Pensez-y un instant. Quelles sont les choses les plus importantes dans vos vies? Une des raisons pour lesquelles les gens ne pensent pas à ces choses-là, parce qu'ils ont été enseignés qu'il n'y a pas de réponse à ces questions-là. On ne sait pas ce que c'est la vérité, on ne sait pas ce que c'est le but de la vie, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est ce que les gens disent, mais ils ont été enseignés de cette façon-là. Et pourtant, il y a un livre qui révèle le futur. Il y a un livre qui révèle le but de l'existence humaine, qui décrit ce qui est important dans la vie. Il y a environ 25-30 ans, je suis retourné aux études pour aller à une maîtrise en biologie. Et nous étudions les comportements humains. Pourquoi les gens font certaines choses? Comment influencer et changer les comportements humains? Comment influencer les valeurs des gens? Et dans un des cours que j'ai suivi, il y avait un exercice qu'on appelait à ce moment-là « vos 20 amours », si vous voulez, ou « vos 20 objets d'amour ». Moi, je l'appellerais plutôt « nos 20 buts ». Je vous encouragerais à faire l'exercice que j'ai fait à ce moment-là et que j'ai refait au cours de ma vie à quelques reprises. Pensez à quelles sont les 20 choses les plus importantes de votre vie. Faites-en une liste. Quelles sont les 20 choses les plus importantes que vous aimeriez faire dans la vie qui vous reste? Les 20 plus importants buts qui sont les vôtres. Faites une liste et pensez-y. C'est une question importante. Faites cette liste-là. Faites l'expérience des choses que vous aimeriez accomplir, réaliser, les 20 choses les plus importantes de votre vie. Et posez-vous ensuite une autre question. S'il ne vous restait qu'une seule année à vivre, est-ce que vous réarrangeriez cette liste de priorités? Posez-vous cette question-là. S'il me restait une année à vivre, quelles seraient les choses les plus importantes que je voudrais faire? Maintenant, posez-vous après ça une autre question. S'il me restait seulement un mois à vivre, est-ce que je modifierais mes priorités ou l'ordre de mes priorités? Comment les ajusterais-je? Et demandez-vous une autre question. S'il ne me restait qu'une semaine à vivre, comment est-ce que j'ajusterais et comment est-ce que j'organiserais mes priorités? C'est une clarification de nos valeurs et ça nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre vie. C'est un exercice positif. Et ça nous amène à réaliser ce qui est vraiment important et à prioriser nos buts, nos rêves, nos objectifs. Bien sûr, on peut le faire à partir d'un point de vue humain. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous en tant qu'êtres humains? Mais vous pouvez poser la question aussi, quelles sont les choses les plus importantes dans la perspective de Dieu? Quelles sont les priorités de Dieu? Et comment les priorités de Dieu influencent-elles vos priorités? On va parler de prophéties bibliques un peu aujourd'hui. Comment les prophéties bibliques influencent-elles votre vie et vos priorités? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça vous influence ou pas du tout? Ou est-ce que ça vous influence beaucoup? Est-ce que vous les considérez comme importantes? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pensez-y. Ce sont des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Dieu nous dit de veiller comme il faut au sentier sur lequel nous marchons, de conduire nos pas dans la juste voie. Quelles sont nos priorités? Le sabbat est un temps qui nous est donné pour nous retirer de la course folle régulière de nos vies et où on peut prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important. Dieu nous donne cette période de temps-là chaque semaine. Il ne faut pas oublier le principe fondamental que Dieu nous donne dans le sabbat, de se reposer, de fermer la porte sur nos activités habituelles et prendre le temps de réfléchir chaque semaine, de goûter ce repos, d'analyser nos priorités, d'y réfléchir. Dieu nous donne aussi les jours saints pour nous rappeler son plan, son but. Et au cours des années, j'ai encouragé les gens à la fête, par exemple, d'aller marcher dans la nature ou sur le bord d'un lac, s'ils sont près d'un lac. Et demandez-vous, pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi existez-vous? Où serez-vous l'an prochain? Qu'est-ce qu'une année peut faire en termes de différence dans votre vie? Les jours saints de Dieu nous fournissent une occasion d'approfondir ces questions-là et de réfléchir. Est-ce que je planifie ma vie en fonction du plan de Dieu? Et est-ce que je serai prêt lorsque le Christ reviendra sur la terre, ce qui est représenté par la fête des trompettes? Est-ce que je me prépare pour le royaume de Dieu qui est tout proche? Est-ce que je serai véritablement prêt? Le sabbat n'est pas un fardeau, comme certains pensent. Non, au contraire, c'est une bénédiction. Je me rappelle, j'étais à l'école, je travaillais très fort, et j'ai été appelé dans l'église à un moment donné, et là, il a fallu que je commence à prendre une journée de congé par semaine, le sabbat. Avant d'être appelé dans l'église, je travaillais 7 jours par semaine, j'étudiais 7 jours par semaine, et je me suis rendu compte qu'après 2 mois, je ne pouvais pas mettre plus dans ma tête par semaine après 6 jours de travail. Et quand il a été question pour moi de commencer à observer le sabbat, je me suis dit que je n'arriverai pas dans mon horaire, je n'arriverai pas à tout apprendre. Et lorsque j'ai fait l'expérience de prendre le vendredi soir libre et le samedi jour de repos et ainsi de suite, lorsque venait le début de la semaine, j'étais encore plus énergique et plus en forme pour prendre mes activités. Parce que j'avais eu le temps de me reposer, j'avais eu le temps de me concentrer sur les choses de Dieu et Dieu m'avait béni en conséquence. Dieu nous donne le sabbat en tant que bénédiction. Il nous donne du temps de repos et de réflexion. Je vous donne quelques passages, vous pourrez les vérifier vous-même. Dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 7, on voit que Dieu a créé le sabbat. De quelle façon? En se reposant. Il a créé le sabbat en cessant de travailler. Il s'est reposé. Et ce faisant, la Bible dit qu'il a sanctifié le sabbat, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part ce 7e jour pour un but particulier. Et la Bible explique ensuite comment utiliser le sabbat. Ça mentionne que Dieu s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Et vous avez fait différentes expériences dans le domaine de réaliser des choses. Si vous avez peint la maison, si vous avez travaillé sur le paysagement de votre propriété, si vous avez travaillé en couture et vous avez fait une robe, si vous avez fait d'autres travaux, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez réalisé quelque chose? Est-ce que vous le jetez? Non, vous l'admirez, vous en êtes content. Il y a un plaisir, il y a une certaine satisfaction à faire ce qu'on fait et à le regarder par après. Je me rappelle quand nos garçons avaient 7-8 ans, un avant-midi, ils voulaient aller jouer au football. Et je leur ai dit, non, vous n'irez pas jouer au football tout de suite. Vous allez nettoyer en dessous du balcon de la maison. Et ils ont dit, non, papa, on va aller jouer au football. Et je leur ai dit, et là j'ai réalisé, ça va être difficile pour eux autres de le faire tout seul, je vais le faire avec eux. Alors j'ai dit aux garçons, nettoyons le dessous du balcon. Alors on a travaillé ensemble, on a tout mis les choses en ordre. Une fois que ça a été fait, les garçons m'ont regardé, ils ont dit, papa, c'est beau ce qu'on a fait. C'est beau ce qu'on a fait. Ils avaient ce sentiment de satisfaction. Et ça a été la même chose pour Dieu. Lorsqu'il a eu terminé toute la création, il a regardé, il s'est reposé au jour du sabbat et il avait une satisfaction à ce qu'il avait fait. Et c'est normal. Lorsque nous réalisons des choses physiquement, nous en sommes contents, il y a un plaisir à ça, il y a une joie. Il n'y a rien de mauvais à prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Réfléchir à ce que vous avez fait au cours de la semaine, mais aussi réfléchir à la direction dans laquelle votre vie est orientée et qu'est-ce que vous avez à changer. C'est une bénédiction extraordinaire que Dieu nous donne à chaque sabbat, un temps de réflexion, un temps de repos pour examiner ce que nous avons fait. Exode 20, verset 8 nous dit « Souviens-toi du jour du sabbat. Planifie le jour du sabbat. Attends-le avec joie. C'est un moment où nous fermons la porte sur toutes nos activités et nos préoccupations de la semaine et on fait ça chaque 7e jour. Et à ce moment-là, on se repose, on ne fait aucun travail et on se ressource physiquement et spirituellement. On voit dans Lévitique 23, versets 1 et 2, que le sabbat est une sainte convocation. Une convocation, c'est une assemblée commandée. Je me rappelle, lorsque je suis allé au collège, on avait une assemblée commandée comme ça. C'était une école presbytérienne. Avant que je sois à l'église. Et chaque mercredi, à une heure précise, on devait être là. Nous avions seulement la possibilité de manquer trois fois si on avait des raisons sérieuses. Au-delà de ça, on coupait nos résultats scolaires, on réduisait nos résultats scolaires. C'était une assemblée commandée. Dieu dit, le sabbat est une sainte convocation, c'est un service d'adoration, c'est une assemblée d'adoration pour que nous gardions notre concentration, notre esprit dans la bonne direction. Dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, il est question du sabbat et Dieu en parle comme étant un temps de délice et ça doit être un délice. Quand nos garçons ont grandi, vous savez, lorsque le sabbat arrivait, on leur tapait pas sur la tête avec la Bible en disant « Assoyez-vous, ne parlez pas, c'est le sabbat. Oh, c'est formidable. Quelle grande bénédiction. » Non, non, c'est pas comme ça. Parfois, ce que je faisais, c'est que j'allais au sous-sol avec eux autres et on luttait, on faisait de la lutte sur le plancher. Et après ça, on parlait des choses bibliques. Mon épouse faisait un beau repas. Nous nous efforcions d'en faire un délice, justement. Quelque chose d'agréable, d'intéressant. Si vous prenez du temps, le jour du sabbat, pour réfléchir, où est-ce que je m'en vais? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et vous concentrez ou vous reconcentrez sur les choses importantes de la vie. Et quand le sabbat est terminé, vous êtes prêt à reprendre votre chemin et à aller plus loin. Et vous êtes en forme. Allons à Psaume, le chapitre 121. David, appelé un homme selon le cœur de Dieu, était un berger. Il a passé des heures et des heures dans les champs à s'occuper des brebis et à en prendre soin. On en a parlé avec M. Matouma lorsque je suis allé au Kenya avec lui. M. Matouma m'avait dit qu'il avait voyagé de Nairobi jusqu'à l'endroit où nous étions sur 420 kilomètres. Vous devriez voir les routes là-bas. C'est une route à deux voies, très étroite, très chaotique. Et sur un côté de la route, parfois vous avez simplement quelques centimètres de jeu et après c'est le fossé et parfois des ravins. Et lorsque vous rencontrez d'autres véhicules dans ces circonstances-là, c'est assez stressant. Alors ces gens-là ont ce genre de chemin, de voies carrossables là-bas. Et je me rappelle d'avoir vu dans les champs, lorsqu'on a passé sur ces routes-là, un homme qui gardait les troupeaux et il était debout sur une jambe, son autre jambe à côté sur sa cuisse et il avait son bâton à la main. Il avait le temps de réfléchir. David, c'était la même chose. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser, alors qu'il s'occupait des brebis. Et voyez ce à quoi pensait David à ce moment-là. Psaume 121, verset 1, David dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Et il s'est posé la question « D'où me viendra le secours? » Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La semaine passée, j'ai amené mes petits-enfants faire une visite spéciale au planétarium. C'était intéressant. Et nous avons utilisé un télescope pour regarder les cieux. Et j'ai fait ça à quelques reprises dans ma vie. Et même le soir, sans avoir de télescope, de marcher près d'un lac et de regarder la voûte céleste. Vous voyez les cieux qui se déploient comme à l'infini et vous réalisez que vous êtes simplement une toute petite chose sur la terre. Et lorsque vous êtes en avion à 35 000 pieds d'altitude et que vous regardez au sol, vous ne voyez même pas les gens. On voit les villes qui sont comme de petits points. Et ça replace les choses dans le bon contexte par rapport à notre soi-disant importance. Dieu regarde les choses à partir d'une distance encore plus lointaine, dans un sens. Dieu a fait les cieux et la terre. Verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » David avait son centre d'attention sur Dieu et il était en contact avec la création de Dieu. Et ça lui a aidé à comprendre Dieu, à apprécier sa création. Ce qu'il est et ce qu'il fait. Si on reste rivé à l'ordinateur ou qu'on vit continuellement à l'intérieur et dans nos voitures, on perd contact avec le monde réel. Il nous faut reprendre contact régulièrement avec la création de Dieu. Ça nous aide. Allons à Psaume chapitre 1, s'il vous plaît. Psaume chapitre 1. Lisez les psaumes. Et Ce faisant, essayez de voir comment David pensait. Voyez ce qu'il a écrit, quels étaient ses sentiments. Verset 1, psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. » Autrement dit, « à être envié, soit l'homme qui ne marche pas dans le conseil des gens méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs aujourd'hui dans la société. Vous croyez en Dieu? Ça n'a pas de sens. Vous croyez en la Bible, ce vieux livre? Voyons donc. Voyons donc. Écoutez, soyons honnêtes, c'est le monde dans lequel nous vivons. Verset 2. Mais la personne qui est bénie, qui est heureuse, c'est celle qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et cette loi-là, elle est là pour notre profit, pour notre bonheur, et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a 2 ans, lorsqu'on a eu grande sécheresse ici à Charlotte, les arbres qui manquaient d'eau séchaient. David prend les arbres comme analogie ici. Verset 4, « Il n'en est pas ainsi des méchants. » Autrement dit, ils ne sont pas bénis. Ils sont comme la balle que le vent emporte. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Il y a un jugement qui s'en vient, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà quelques-unes des choses auxquelles David pensait. Psaume 8 maintenant, en s'occupant des brebis, il ne dormait pas continuellement, il réfléchissait, il écrivait des poèmes, des psaumes. Et regardez le verset 2, psaume 8. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des petits-enfants, tu as fondé, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi est-ce que tu te soucies de nous, Dieu, toi le Tout-Puissant? Pourquoi est-ce que tu nous as donné tes lois? Quel est le but de la vie, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu, inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. » Paul a cité dans le livre de Hébreux ces passages-là. Et Paul a dit, on ne voit pas encore que toutes choses soient mises sous nos pieds, mais ça vient. Toutes choses nous seront soumises, et nous aurons domination sur toutes choses avec le Christ. Jean, dans le livre d'Apocalypse, a dit que nous serions des rois et des sacrificateurs dans le monde à venir. Vous y croyez? Les apôtres y croyaient. Beaucoup de gens aujourd'hui n'y croient pas et ne savent même pas que ça existe. On ne parle pas de ces choses-là aujourd'hui. Et plusieurs ministres ou plusieurs personnes qui espèrent devenir ministres n'en sont pas conscients. Ils ne prêchent pas vraiment la parole de Dieu. Voici ce sur quoi pensait David. Vous ne tournez pas les yeux au ciel lorsque vous conduisez la voiture dans la circulation, sinon vous allez avoir un accident. Il faut que vous preniez pause et que vous réfléchissiez et que vous regardiez la création. Il y a un certain nombre d'années, nous étions, mon épouse et moi, en charge d'un certain nombre d'adolescents de l'église dans un chalet, alors que c'était une fin de semaine pour les parents. Et le vendredi soir, un des adolescents m'a demandé s'il pouvait faire jouer un peu de musique de sabbat. Et je lui ai dit oui, bien sûr. C'est un temps de repos et d'écouter des belles choses aussi. Et j'ai remarqué qu'après le premier disque, le deuxième disque n'était pas tellement une musique de sabbat. Et je me suis dit, bon, je vais laisser les choses aller, je vais voir ce qui va se passer. Le prochain disque et les autres suivants étaient de moins en moins de la musique de sabbat. Et le lendemain matin, ça continuait à être de la musique différente. Et vers 2 heures d'après-midi, nous avons eu une étude biblique et je leur ai dit, « Vous savez, mes amis, vous avez manqué quelque chose de formidable hier soir et ce matin. Vous êtes venus ici, à ce chalet en pleine forêt, près d'un lac, pour vous reposer, pour vivre le sabbat. Et avant d'aller au lit hier soir, c'était « boum, 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 boum. » Plutôt que de sortir à l'extérieur, de voir la lune s'élever au-dessus du lac, plutôt que d'écouter le vent dans les arbres, vous avez fait une expérience tout à fait différente. Vous auriez pu vous lever ce matin et aller voir le soleil. éliminer la brume de sur le lac, écouter les oiseaux chanter dans les arbres, sentir les bons parfums. Vous auriez pu avoir une expérience tout à fait différente de celle que vous avez eue, plutôt que d'écouter cette musique que vous avez manquée. Après l'étude biblique, personne ne s'est approché du tourne-disque. Parfois, c'est une bonne façon d'enseigner. Je voulais qu'ils apprennent la leçon. Parfois, on apprend lorsqu'on manque quelque chose, vous savez, ou lorsqu'on perd quelque chose. Voilà à quoi David pensait. David gardait contact avec la création de Dieu et avec Dieu, et il gardait sa concentration sur les questions importantes de la vie. On voit dans Marc 1, verset 35, que le Christ se levait très tôt le matin et allait en un endroit tranquille, paisible, pour prendre contact avec Dieu, pour être capable de vivre sa journée, de passer à travers les choses qui venaient. Nous avons l'occasion de faire ça. Utilisons-le. Le Christ était concentré sur des questions importantes. Dans Actes chapitre 16, s'il vous plaît, à partir du verset 11, Paul était avec quelques personnes de l'Église. On parle du christianisme apostolique ici. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Comment est-ce que leur vie était organisée? Acte 6 et le verset 11 maintenant. « Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. » C'était une ville importante en Macédoine à ce moment-là, qui est la première ville d'un district. Bon, et le verset 13, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. » Probablement, il n'y avait pas de synagogue à Philippe. Ça prenait 10 familles pour avoir une synagogue. Qu'est-ce qu'ils ont fait vu qu'il n'y avait pas de synagogue? Ils sont allés près d'une rivière. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque on est près d'une rivière? On s'assoit, on regarde couler l'eau et on réfléchit, on admire, on s'approche de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont rencontré d'autres personnes là-bas. Ils se sont réunis avec elles. Ils ont parlé des voies divines ensemble. À ce moment-là. Acte chapitre 17, versets 1 et 2 maintenant. Acte 17, verset 2, en fait. Paul y entra, en parlant de la synagogue d'une autre ville ici, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux et ainsi de suite. Paul y entra selon sa coutume. Il suivait en cela l'exemple du Christ qui observait le sabbat. Le sabbat était et demeure toujours un jour de repos et d'adoration. Un jour de réflexion. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'occupent pas du sabbat aujourd'hui. Mais les apôtres originaux le faisaient. Ces choses-là ont été changées environ 200 ans après le temps des apôtres originaux. Allons à Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 4 et le verset 16. Luc utilise cette phrase. Une fois ici, une fois dans le livre des Actes aussi, c'est le même auteur, Luc, qui a écrit le livre de Luc et le livre des Actes. Alors, Luc 4 et le verset 16, en parlant du Christ ici, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. On voit que Paul imitait le Christ en cela. C'est pourquoi il allait aux synagogues le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est allé à la synagogue ce jour-là? On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il cite ici un passage de l'Ancien Testament. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ici, il est question du tout début du ministère du Christ. Et de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il leur dit, « Dieu vous aime, moi aussi je vous aime? » Non. Le Christ a parlé tout de suite de prophétie de choses à venir et de choses qui étaient annoncées d'avance et qui devaient se réaliser. Et on voit au verset 20, « Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le message qu'il leur a donné concernait la prophétie à ce moment-là. Il leur a dit, « Ce que je viens de vous lire vient de s'accomplir devant vos yeux. » Bien sûr, Le Christ a parlé d'amour, a parlé de miséricorde. Mais ici, dans ce sermon-là, au niveau du début de son ministère, il a parlé d'événements prophétiques qui étaient en train de se réaliser sous leurs yeux. Si on va à Jean chapitre 14, maintenant, Jean chapitre 14, et on va lire le verset 3, Jean chapitre 14 et le verset 3. Voici ce que le Christ a dit à ses disciples pour qu'ils gardent leur esprit concentré sur les choses importantes, sur les choses à venir. Verset 3, il leur a dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Je reviendrai. Le général Douglas MacArthur, lorsqu'il a quitté les Philippines lors de la Deuxième Guerre mondiale, a dit « Je reviendrai ». Je me suis rendu à cet endroit d'où il avait quitté les Philippines à ce moment-là. Et selon sa promesse, il est revenu et il a participé à la libération de ces îles. Et le Christ a dit à ses disciples ici « Je vais partir, mais je vais revenir ». Je reviendrai. Plusieurs personnes ne croient pas à cela aujourd'hui. Ils disent, oh, c'est une métaphore. C'est simplement symbolique, ce genre de langage. Si vous allez à Actes 1, verset 11, au moment où le Christ est monté au ciel, les anges sont venus accoster les apôtres et leur ont dit, le Christ va revenir de la même manière qu'il vient de quitter. Ils l'ont vu monter au ciel. Matthieu 24. Le Christ inspire de dire que les gens vont être témoins de son retour. Ce sera visible et ça va ébranler la terre entière et tous ses habitants lorsque ces choses-là vont se réaliser. Mettez votre esprit sur des choses importantes. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que c'est simplement un récit peu important? Ou si la Bible entend vraiment ce qu'elle dit? Jésus a promis, je reviendrai, je vais aller vous préparer une place. Il y aura une couronne pour chacun et chacune d'entre vous. Et cette couronne vous est réservée individuellement. Lorsque j'ai été mis à pied il y a plusieurs années de l'ancienne organisation où j'étais, j'avais le sourire et j'ai donné un coup de coude à mon voisin et je me disais à moi-même, personne ne peut prendre ma couronne. Il faut être sûr de ce que nous croyons. Les prophéties s'accomplissent devant nos yeux aujourd'hui. Le Christ a dit, « Je vais revenir. » Allons à Marc chapitre 13, s'il vous plaît. Marc chapitre 13. Il est question des événements qui vont arriver avant le retour de Christ. La dernière section de Marc chapitre 13. Qu'est-ce que le Christ dit ici? « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » À son arrivée soudaine. L'implication de ça, c'est que le Christ va revenir au moment où les gens ne l'attendront pas. Il va arriver soudainement. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'attendront pas? Oh, vous ne croyez pas la Bible? Ça, c'est un vieux livre qui n'a pas de signification actuelle. Vous ne croyez pas que ça va arriver? C'est ce que les gens pensent en ce qui concerne la Bible et en ce qui concerne ceux qui croient à la Bible. Et on pense ça et on dit ça surtout dans les cercles académiques. Vous n'êtes pas sérieux de penser que ce que la Bible dit, c'est réel? Voilà pourquoi les gens seront surpris. Ils vont réaliser tout d'un coup que la Bible entend vraiment ce qu'elle dit. Voilà pourquoi c'est important de réaliser que ces prophéties-là doivent affecter nos priorités de vie. Il nous est dit que le Christ va revenir et il va revenir soudainement, surtout dans le concept du monde. Les gens du monde sont occupés à toutes sortes d'autres choses. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. J'avais tellement de choses à faire. J'avais tellement de choses qui occupaient mon temps. Ces choses-là sont en train de se réaliser. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a donné ses prophéties, pour que nous comprenions ce qui s'en vient, que nous y pensions d'avance et que nous nous y préparions. Matthieu, chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. Le Christ a dit à ses disciples, « Je vais revenir. Je vais aller vous préparer une place et je vais revenir. » il y a des couronnes réservées pour chacun de vous. Et lorsqu'il s'adressait à ses 12 apôtres, à ce moment-là, il leur a dit, vous allez être des chefs sur les 12 nations d'Israël. Vous allez avoir 12 trônes. Est-ce qu'ils ont dit, ah, Seigneur Jésus, c'est des blagues que tu fais? Non, non, non. Ils ont pris ça au sérieux. Ils lui ont dit, quand est-ce que tu vas revenir? Et comment est-ce qu'on saura que tu viens? Lisez-le par vous-même dans Matthieu 24, verset 2. Il leur dit, voyez-vous tout cela? En parlant du temple, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Allez sur une colline ou une montagne, ça donne une autre perspective. Vous pouvez commencer à partir de là à avoir une image plus grande, une plus grande perspective. C'était une bonne expérience à faire. Et réfléchissez à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce qui arrive autour de moi maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se réaliser? J'ai eu l'occasion de m'asseoir sur le mont des Oliviers dans le passé. C'est une expérience vraiment inspirante et vraiment enthousiasmante, je peux vous le dire. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Ils étaient sérieux, ils voulaient savoir, ils savaient que le Christ disait réellement ce qui allait arriver. Ils y croyaient. Et ils ont dit au Christ, « Quand cela va-t-il arriver et quel sera le signe de ton avènement? » Comment saurons-nous que nous allons approcher de ton avènement? Alors le Christ n'a pas dit, « Je bénis vos petits cœurs, soyez bénis dans vos cœurs, faites-moi confiance. Peut-être que je vais revenir ce soir. Peut-être que je reviendrai demain soir. Peut-être que je reviendrai seulement dans 100 ans ou peut-être que je reviendrai seulement dans 1000 ans. Soyez positifs. » Non! Il leur a donné une liste précise d'événements et de choses devant se produire avant son retour. Et je veux commencer avec le premier élément qu'il leur a donné dans cette liste de signes précédant son retour. Le Christ a parlé d'événements religieux devant se produire sur la scène mondiale juste avant le retour de Christ. Plusieurs personnes méprisent, pour ainsi dire, et critiquent ces passages de Matthieu ici, en disant, « Ah, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des problèmes entre les nations. » Écoutez, il y a des événements religieux qui ont cours aujourd'hui qui ne se sont jamais produits dans l'histoire de l'humanité, qui ont une importance et un impact comme jamais auparavant dans l'histoire. Ces événements-là ne se sont pas produits et sont en train de se produire maintenant. Il nous faut le réaliser. Et si nous ne le voyons pas, nous serons pris de court. Voyons la première chose que le Christ a mentionnée ici. Versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis ministre de Dieu, je suis ceci, je suis cela. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà la première chose qu'il a mentionnée. Les critiques, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ont tendance à dire, « Ah, ce petit groupe de l'Église de Dieu sont séduits. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. » Le Christ a dit, « Plusieurs viendront sous mon nom. » Donc, ça doit être important. Les catholiques, les protestants et les autres soi-disant chrétiens se pensent dans la vérité et viennent au nom du Christ. Et voilà les nombreux qui viennent au nom du Christ. Nous ne sommes rien. M. Meredith le dit souvent, nous sommes comme une demi-écale d'arachide sur l'océan. Écoutez, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. Apocalypse 12, 9 dit que Satan a séduit la terre entière. Ça inclut les 2 milliards de soi-disant chrétiens. Et ça inclut les 4 autres milliards d'individus qui croient à toutes sortes de choses ou à rien. Voilà l'accomplissement de ce que le Christ avait annoncé comme premier signe annonçant son retour ici. Un grand nombre venant sous le nom du Christ. J'ai trouvé un livre qui s'appelle « Le christianisme païen ». Et ça a été écrit par Frank Viola et George Barna. Et le petit texte à l'endos du livre dit ceci. et ces gens-là n'ont rien à voir avec nous. Ce livre propose une analyse surprenante. Ce que les chrétiens modernes font à l'Église chaque dimanche trouve son origine non pas dans le Nouveau Testament, mais dans la culture et les rituels païens développés après la mort des apôtres originaux. Fin de la citation. C'est arrivé pas longtemps après la mort des apôtres originaux. Il a commencé à avoir des grands changements et on peut le vérifier dans l'histoire. Les auteurs du livre parlent du baptême historiquement avec justesse en disant que l'Église originale baptisait les adultes, non pas les enfants, mais ils ne sont pas allés plus loin. Le titre du livre est correct, le christianisme païen, mais il n'est pas allé très loin. Il aurait pu aller beaucoup plus loin dans ses recherches. Le Christ parle d'événements religieux. Et on les voit se produire aujourd'hui. Ça donne à réfléchir. C'est excitant en même temps parce que ça nous montre qu'on approche de la fin. Mais ça donne à réfléchir. La Bible a parlé de ces choses-là depuis des années. C'est écrit depuis des années. Et on le voit s'accomplir sous nos yeux maintenant. Vous savez, les grands courants du christianisme actuel disent que nous sommes dans l'erreur. Mais lorsque nous examinons et que nous prouvons toutes choses, comme c'est marqué dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, nous voyons que le sabbat existe, nous voyons que les fêtes de Dieu existent, nous voyons que le plan de Dieu existe, et ainsi de suite, et que les 10 commandements sont toujours en vigueur. Lorsque vous étudiez, par exemple, le nom de l'Église, quel est le nom biblique de l'Église? Est-ce qu'on peut le prouver par la Bible? Ce n'est pas l'Église catholique romaine, ce n'est pas méthodiste, ce n'est pas l'Église du septième jour des Adventistes. L'Église est appelée l'Église de Dieu. Dans 1 Corinthiens, on le voit entre autres. Paul dit « J'ai persécuté l'Église de Dieu » et Paul a écrit ensuite à l'Église de Dieu à Thessalonique ou à Corinthe. Nous sommes allés au Rhode Island, ici aux États-Unis, à Portland. Et les premiers arrivants de l'Église de Dieu à l'époque du début de la colonie ici s'appelaient l'Église du Christ. Ils ont changé le nom par la suite. Alors, on peut identifier les gens qui appartenaient et qui appartiennent vraiment à l'Église de Dieu par les doctrines. Est-ce que leurs doctrines sont bibliques? L'Église apostolique du début payait la dîme, observait le sabbat, observait les fêtes de Dieu. Ça a été seulement après l'époque des apôtres que les autres pratiques ont été introduites dans l'Église. Et on peut le prouver par l'histoire. Il s'agit de faire simplement quelques recherches. Et l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament, elle est appelée un petit troupeau, un petit troupeau, un groupe de gens persécutés et non pas une grande organisation mondiale éclatante. Non, pas du tout. On peut prouver ces choses-là, on peut le prouver par les Écritures. Prenez garde que personne ne vous séduise donc, c'est ce que le Christ nous a dit. Et ce que ça implique, c'est que plusieurs personnes allaient être dans l'erreur et vouloir amener des fidèles après eux. Et après, le Christ dit, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore concernant ces événements religieux qui vont s'accentuer d'ici le temps de la fin, d'ici la fin elle-même? Allons à Apocalypse, chapitre 6. Chapitre 6. J'ai regardé des commentaires, différents commentaires, en particulier un commentaire catholique, et lorsqu'ils parlent du livre de l'Apocalypse, ils font simplement reproduire le texte du livre d'Apocalypse avec beaucoup d'images, mais ils n'expliquent rien. Alors, tout ce que vous avez à faire pour essayer de comprendre, c'est de lire le texte biblique. Ils n'expliquent rien. Et certains, d'eux, disent, on ne peut pas comprendre ce qu'Apocalypse dit. Non, on peut comprendre. Justement, le livre l'Apocalypse a été écrit pour que nous puissions comprendre. Apocalypse chapitre 6 parle de 4 cavaliers et ces 4 cavaliers correspondent à 4 événements que le Christ décrit dans Matthieu 24. Le premier signe de son avènement, comme on a vu dans Matthieu 24, c'est les faux Christ qui se prétendent le Christ ou qui prétendent parler au nom du Christ et qui vont se multiplier. Verset 1. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Lorsqu'on lit les commentaires bibliques à ce sujet-là, on dit souvent qu'il s'agit là du Christ. Les gens pensent que c'est le Christ, mais non, la Bible ne dit pas que c'est le Christ. Le cavalier a un arc. Bien sûr, il est monté sur un cheval blanc. Dans la Bible, le Christ n'est jamais décrit comme ayant un arc. Mais il y a un individu qui a cette description dans la Bible, qui a un arc et des flèches ou des traits ardents, pointus. Et si vous regardez dans Éphésiens 6, verset 16, il est écrit que Satan a des traits enflammés, les traits enflammés du malin ou les dards enflammés du malin. La Bible interprète la Bible. Dans Hébreux 4, verset 12 et dans Apocalypse 19, verset 21, on voit que le Christ est décrit comme ayant une épée. Et parfois, une épée sortant de sa bouche, une épée à deux tranchants qui représente la parole de Dieu. Alors que dans Apocalypse 6, ce cavalier-là ici a une arc. Ce n'est pas le Christ, c'est une personne ou une organisation qui séduit les gens, prétendant être représentant de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez le pape, à l'occasion, vous voyez marcher avec une couronne sur la tête. Beaucoup de descriptions bibliques, on les voit dans la réalité autour de nous. Et c'est marqué dans Apocalypse 6, à la fin du verset 2, que ce cavalier avec un arc est sorti pour vaincre, pour conquérir. Et cette forme de religion, de faux christianisme, va devenir très militante. Si vous n'êtes pas de leur côté, vous serez éliminés. Il nous faut regardez ces choses-là. Il y a une forme de christianisme très militante qui va persécuter les gens qui prêchent la vérité, qui prêchent des choses différentes de ce qu'eux prêchent et prêchant des choses qui sont fondées sur la Bible. Allons dans 2 Timothée, s'il vous plaît. Dans 2 Timothée, chapitre 3. Il y a quelques années, j'ai entendu le sermon d'un ministre qui a quitté, bien sûr, par la suite. Il donnait un sermon sur la prophétie. Il disait à ce moment-là, « J'ai lu tout le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de prophéties dans le Nouveau Testament. » Et je me suis dit en moi-même, « Quel Nouveau Testament est-ce que tu as lu? » Qu'est-ce que Matthieu, Marc 13 et Luc 21 parlent? De quoi parle-t-il? Et dans Timothée et dans Thessaloniciens, il est encore question de prophéties. Et tout le livre d'Apocalypse décrit des événements prophétiques. Il y a beaucoup de prophéties dans le Nouveau Testament et ça amplifie ce que l'Ancien Testament disait. Ça va ensemble. Il y a énormément de prophéties dans les Écritures. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, Paul décrit la fin de l'âge ou la fin de notre monde actuel ou la fin de la société présente. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps stressants, des temps bouleversés, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irreligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et regardez au verset 5, « Ayant l'apparence de la piété. » L'apparence de la piété. C'est simplement une forme extérieure. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de faire des bonnes choses, de poser des bons gestes, mais il renie la puissance de Dieu. J'ai lu récemment concernant un homme qui a été ordonné évêque de l'église épiscopale au nord des États-Unis, et c'était un homosexuel. Il était interviewé, et ce qu'il déclara, c'était ceci. Il disait concernant l'homosexualité, il y a seulement quelques petits versets qui parlent de ça dans la Bible, mais il faut passer par-dessus ça. Il faut voir plus loin. Vous devez apprendre à me connaître. Je suis un type formidable. Dieu dit pourtant que cela est une abomination à ses yeux. C'est quelque chose qui pervertit le concept du mariage. Mais cet évêque-là disait, « Non, ne vous occupez pas de ça. Apprenez à me connaître, tout simplement. » Les Écritures disent clairement ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ah, vous ne croyez pas aux prophéties, voyons, ça n'a pas de sens. Reniant ce qui en fait la force. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20, il est bien dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Apprenez à partir des prophéties. Dans les derniers jours, viendra des temps difficiles. Ils vont renier l'autorité, ils vont renier la réalité de Dieu et la réalité des Écritures. Le temps est venu où les gens vont rejeter ça, ne porteront pas attention à la parole de Dieu, à la vérité et à la puissance de Dieu. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et nous voyons ces choses-là se passer autour de nous. La Bible dit, rappelez-vous du sabbat. Qu'est-ce que dit le pape? Rappelez-vous du dimanche. Rappelez-vous le dimanche. C'est écrit dans les livres de loi aujourd'hui même, en Europe. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en application les lois qui sont déjà passées, adoptées. Et ce faisant, lorsque ça viendra, les gens seront obligés de travailler le samedi. 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, pardon, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, commençant au verset 1. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Vous pouvez aller voir dans le livre de Jérémie, il est question de la fin du monde et ça décrit le moment où les gens diront paix, paix, mais où il n'y aura pas de paix. Et qu'est-ce que vous voyez dans les nouvelles? Qu'est-ce que vous voyez dans les journaux? Il y a conférence sur la paix, jour après jour, et la paix n'arrive pas. Lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Lorsqu'on attend un enfant, il y a une certaine date déterminée pour la naissance, mais parfois ça arrive un peu avant. Je me rappelle, j'ai vécu l'expérience avec mon épouse concernant la naissance de notre deuxième fils. J'étais en train de tondre le gazon devant la maison et mon épouse était sur le balcon à l'avant. Et tout à coup, j'ai vu qu'elle n'était plus là, elle était disparue. Là, je savais ce qui se passait. J'ai dit, il y a des choses qui arrivent. Alors, j'ai laissé mon travail là et je suis allé la rejoindre tout de suite. Le Christ a utilisé cette analogie-là en disant, soudainement, ces choses-là vont arriver. Mais vous, frère, verset 4, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous ne devriez pas être surpris. On vous a dit ces choses, c'est écrit, et c'est là, devant vos yeux, écrit noir sur blanc. Vous ne devez pas être dans les ténèbres. Verset 6, Paul dit ici la même chose que le Christ nous a dit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, soyons sérieux. Ce jour-là va arriver soudainement. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 5 maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Paul parle encore de la venue du Christ. Alors concernant l'arrivée du Christ et notre union à lui, ne soyez pas surpris dans votre esprit si vous recevez une lettre comme si ça venait de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Ne laissez personne vous séduire. D'aucune manière, car il faut que deux choses arrivent auparavant. Deux choses majeures doivent arriver auparavant. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il faut qu'il y ait l'apostasie et que l'homme du péché ou l'homme impie entre en scène. Et c'est deux choses que nous devons surveiller, sur lesquelles nous devons veiller. Paul dit, en fait, ici, deux événements majeurs arriveront avant l'arrivée du Christ. Il y a une idée qui a circulé concernant l'apostasie. Certains ont pensé que c'est les 100 000 personnes qui ne sont plus ici. Plus de 100 000 personnes ont quitté l'Église. Avant 1995, nous étions 150 000 et après ça, ça a été diminué de beaucoup. Est-ce que ça a été l'apostasie? Peut-être. Le temps nous dira. Attendons de voir. Mais c'est intéressant de voir le contexte ici. Comme Dr. Meredith a bien mentionné, nous sommes comme une demi-écaille d'arachide dans un océan. Nous sommes très peu, nous sommes tout petits, nous sommes peu nombreux. Est-ce que ce qui est arrivé à l'Église de Dieu avec le départ d'un grand nombre peut être quelque chose qui va se produire sur une échelle encore plus importante dans le futur? Peut-être. Si vous regardez le terme apostasie, ce que ça veut dire, il n'y a pas seulement un sens. Il n'y a pas seulement un sens. Examinons ce que ça peut vouloir dire. Apostasie, bien sûr, décrit le fait de quitter. Ça peut signifier aussi une rébellion. Ça signifie aussi un rejet de l'autorité de Dieu et un rejet de ses voies de vie. Et ça peut signifier aussi le fait d'abandonner une position précédente. Ça peut signifier un certain nombre de ces choses-là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le Christ ne viendra pas avant que ces deux événements-là se soient produits. Une grande apostasie, une apostasie finale, une grande rébellion peut-être, et que l'homme impie se révèle, arrive en scène. Et ce que ça implique, c'est que cet impie va être impliqué dans cette apostasie du temps de la fin. Certains ont pensé que M. Tkach était l'homme du péché. J'ai entendu ça déjà. Non, il faut se dire que ce n'est pas assez gros pour que ça ait cette sorte d'impact. L'homme impie, le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ça parle de ce personnage-là dans verset 8. « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Satan sera impliqué avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Et ces miracles-là, ces faux miracles-là et ces signes mensongers vont amener les gens dans une certaine direction qui sera contraire à la direction de Dieu. Il y a environ 2 ans, avec M. Hernandez, je me suis rendu à Fatima, en Europe. Autour des années 1820, il y a des jeunes filles qui ont eu une vision, soi-disant, de Marie, qui ont vu des étoiles bouger, et ainsi de suite. Et au cours des années, à chaque anniversaire de cet événement, il y a des milliers de gens qui se sont rendus et qui se rendent à Fatima, espérant voir une autre vision. Lorsque nous étions là, à ce moment-là, ils étaient en train de compléter la construction d'un auditorium de 10 000 sièges, en même temps que la construction d'un immense stationnement souterrain. Ils se préparent à quelque chose, vous savez. Ils se préparent à quelque chose. Si ces choses commencent à arriver, ce qu'on vient de voir ici, des miracles, des signes, des prodiges mensongers, ou qu'il arrive d'autres choses dans la région ou en Pologne autour, vous allez avoir des deux parties de l'Europe qui vont se rapprocher. Ces choses-là vont se produire. Et Satan sera la puissance qui va faire ces choses-là arriver. Et ça va diriger les gens dans une certaine direction. C'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir. Parce que ce sera une rébellion contre Dieu. S'il commence à suivre le pape et à rejeter le sabbat et à observer le dimanche ainsi que plein d'autres choses, quand le monde va commencer à aller dans cette direction-là, il nous faut réfléchir à ces choses-là. Verset 10 ici. « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Question, qui va être en train de prêcher la vérité à ce moment-là? L'Église de Dieu. Et ce sera les deux témoins. Et en rejetant ce qui sera enseigné par l'Église et par les deux témoins à ce moment-là, il y a des gens qui vont se rebeller contre Dieu et qui vont suivre la grande direction du monde entier. La même chose qui s'est produite lors de la tour de Babel sous Nimrod. Les gens ont suivi une autre direction. Alors, ce qui nous est dit, c'est que le Christ ne reviendra pas tant et aussi longtemps que ces deux événements majeurs-là ne se seront pas produits. Ce qui s'est produit dans l'Église de Dieu récemment, c'est peut-être un avant-goût de ce qui va se passer. On va peut-être voir un renversement de la situation en ce qui concerne les églises protestantes par rapport à l'Église catholique. Vous savez, dans l'histoire, la réforme protestante a été un point marquant de l'histoire des religions. Ils se sont séparés de Rome, mais on peut assister à un renversement de cette situation où les églises protestantes vont retourner à l'Église mère, à Rome. Alors, l'homme du péché va faire des miracles, des signes et des prodiges mensongers, et les gens qui vont suivre cette direction-là vont adorer une autre personne prétendant être Dieu, mais ils vont se détourner de Dieu, ce faisant. Allons dans Apocalypse, chapitre 13, s'il vous plaît, Apocalypse, chapitre 13. Dans le chapitre 13, il est question de deux bêtes. Une première bête qui monte de la mer et une deuxième bête qui monte de la terre. La première bête, c'est une résurrection de l'Empire romain. Et je vais attirer votre attention sur le verset 3 ici, où il est écrit que le monde rempli d'admiration suivit la bête. Lorsque les Européens se sont réunis pour formuler la législation de l'Europe et de l'euro, ils ont fait ça dans la ville de Aachen, en Allemagne. Et c'était là un des quartiers de Charlemagne. Et vous savez ce que ces gens-là ont déclaré? Nous nous sentions comme des Romains le jour où nous avons signé cette entente. Angela Merkel a reçu récemment le prix de Charlemagne l'an passé en tant que personne qui a fait le plus pour l'unification de l'Europe. En Europe, ils ont beaucoup de traditions, ils en sont conscients et ces traditions sont vivantes. Il est écrit ici, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir suivre l'Empire romain. Ils vont devoir suivre la bête s'ils veulent être capables de faire du commerce. Et les Européens mettent en place des règles strictes, très précises maintenant. Et le monde va devoir se soumettre à ces lois s'ils veulent faire commerce. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Verset 11, la deuxième bête. Maintenant, cette bête avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Voici le même personnage dont il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Elle séduisait les habitants de la terre par ses prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Si le pape commence à faire des choses comme ça, les gens vont se tourner vers lui. Ça va être frappant. Personne d'autre ne fera de tels signes, excepté les deux témoins de Dieu qui vont faire des choses semblables. Verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués. Peut-être qu'il y aura une statue qui parlera à ce moment-là. Mais ce sera la petite partie de ces prodiges-là. Ça parle d'une organisation, d'un individu qui va faire la promotion de la bête, de l'Empire romain et du dictateur. Vous savez, si les Européens n'arrivent pas à s'unir vraiment, le pape va intervenir. À plusieurs reprises dans l'histoire, les papes précédents ont offert à l'Europe de les aider à s'unir. Et le pape actuel fait la même chose. Et le Vatican dit, nous avons la colle qui peut vous aider à vous cimenter ensemble. Ça va être intéressant de voir comment ces choses-là vont se réaliser. Et il est question de la marque de la bête aussi, qui sera mise sur la main droite et sur le front des gens. Cette marque de la bête peut comprendre l'observance du dimanche. Dans les années 300, l'observance du dimanche a été introduite et par après, il y a eu des changements, la fête des Pâques et ainsi de suite. À ce moment-là, les gens ne pouvaient pas garder leur propriété. Les gens qui observaient le sabbat et qui observaient les fêtes de Dieu perdaient leurs biens ou bien ils suivaient la bête, le régime en place, ou bien on confisquait leurs biens. Vous pensez que vous êtes une vraie église? C'est ce que le pape dit aujourd'hui. Venez avec nous, on va dialoguer, mais si vous ne venez pas avec nous, on vous coupe la tête. Ça s'est passé dans le passé. Et l'implication de ça, c'est que ça va arriver encore. J'ai tombé sur une phrase il y a quelque temps. C'est écrit, l'histoire se répète, mais pas avant qu'il y ait un changement de costume. C'est-à-dire que ça se répète, oui, mais pas tout à fait de la même façon. Mais l'histoire se répète bel et bien. Et l'observance du dimanche obligatoire peut faire partie de la marque de la bête. Au cours de l'histoire, il y a plusieurs dirigeants protestants, comme Calvin et Luther, qui ont dit que le pape était la bête, cette deuxième bête. Et certains chrétiens le croient aujourd'hui. Le prophète Ésaïe dit de la part de Dieu, « Élève ta voix et annonce à mon peuple ses iniquités. » Et il y a des gens aujourd'hui qui disent, « On n'est pas certain de ce que ce verset-là veut dire. » Certaines